De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucien Dale Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On est de retour, donc on a des choses à dire en effet, et nos invités sont déjà installés, ils sont là avec nous. Il s'agit de Monsieur Paul Messier de la SABL et Anne-Marie Dulude, qu'on connaît bien pour le vidéophare. Mais en fait, on parle bien sûr ici plus de son rôle de biologiste, parce que sa formation de biologiste.
Parce que je travaille pas dans le milieu. En fait, je fais de la communication plutôt. Là, je crée des expositions m'inspirant du milieu naturel.
Parlons-en de ces milieux naturels qui sont menacés, semble-t-il, par cette fameuse carpe. Là, on s'entendait pas tantôt à parler de carpe asiatique, carpe du roseau. Il y a quatre espèces.
Ouais.
Quelle est-elle, premièrement, celle qui nous menace et comment on l'appelle et pourquoi elle nous menace?
C'est difficile à dire, là, de dire laquelle qui nous menace. C'est la carpe des roseaux, là, surtout ouais. Là, qu'on voit. Là. Ben, qu'on voit pas encore. On l'a détecté à contre-cœur, un individu qui a été pêché par un pêcheur commercial. Mais les autres, c'est tout l'ADN qui a été recueilli là, dans l'eau, qui annonce la venue de cette espèce.
Tout ça part justement, ce phénomène-là qui a envahi les médias récemment, ça part du fait qu'on a pêché un spécimen, c'est ça?
C'est ça, la panique.
Et qu'il y a une preuve que cette espèce-là aurait peut-être fréquenté. Est-ce que c'est le même individu? Est-ce que c'est d'autres? On ne le sait pas. On sait juste qu'il y a des carpes, des traces de carpes.
Mais selon toute probabilité, on peut penser qu'il n'y a pas seulement qu'un poisson, celui qu'on a pêché à contre-cœur l'été dernier, qui a créé toutes ces traces-là, mais qu'il pourrait y en avoir d'autres qui accompagnent le vilain poisson.
Probablement, oui. Mais comme toute espèce envahissante, ça crée des dommages dans l'environnement, c'est sûr, surtout au début, on le dit. Okay. Espèce exotique envahissante, c'est parce qu'il n'y a pas de prédateurs au début. Avec le temps, il se rétablit une espèce d'équilibre. Et cette espèce-là mange des plantes, des herbiers aquatiques.
Oui.
L'herbier aquatique, ici, c'est un habitat qui est un peu fragilisé. Non, fragilisé. Uh-huh. C'est l'endroit où les jeunes perchaudes des alevins vont se nourrir.
Ouais.
Puis en ce moment, on a des problèmes. On sait les problèmes qu'on a avec la perchaude. Donc, principalement, les disparitions d'espèces, c'est principalement dû à la perte d'habitat.
Donc, cette carpe-là affame nos poissons jusqu'à un certain point en détruisant en mangeant à leur place.
Mais pas encore.
Pas encore.
Non.
Mais c'est ce qu'elle ferait.
C'est ce qu'on anticipe. Mais comme toutes les espèces envahissantes, on a déjà eu le gobie à taches noires, dernièrement la tanche. Au début, c'est ça fait une explosion, on en voit beaucoup. Puis après ça, on dirait que la chaîne alimentaire, les espèces prédateurs embarquent. Puis là, ils consomment ce poisson-là, puis ça fait comme stabiliser. Mais c'est pas sûr que ça fasse ça avec la carpe asiatique.
Oui, dans le cas présent, on dit qu'il n'y a pas de prédateur pour cette carpe-là.
Ben malgré que le pygargue à tête blanche pourrait s'en nourrir, tu sais, quand elle va se nourrir dans les herbiers aquatiques, le pygargue, lui, il décide pas que c'est soit une carpe asiatique ou une carpe allemande, là, il fait pas de distinction. Là. Si t'as une perche chaude, il va en manger. Si ça bouge, il saute, puis il la capture, puis il va la consommer. Là.
Ça va lui faire un bon snack.
Oui, comme le brochet, parce que la carpe, là, on dit, ouais, ça mesure 1 mètre de long, mais ça vient pas au monde à 1 mètre de long.
Non,
là.
Fait
que c'est ça qui peut arriver. Puis c'est prolifique aussi, la carpe asiatique. Mais on a une autre carpe qui est assez prolifique aussi, c'est la carpe allemande. Elle produit beaucoup, beaucoup d'œufs, on en voit beaucoup. Puis la carpe allemande, dans le bassin du lac Saint-Pierre, ben souvent, quand l'eau déborde, quand on a des inondations, elle répond pas, comme la perchaude, à retourner en eau plus profonde. Puis là, elle meurt en grosse quantité.
Moi, j'ai toujours
été
sous l'impression...
Je sais pas si ça va pas faire ça avec la carpe asiatique.
Ouais. J'ai toujours été sous l'impression que les carpes, justement, c'est des poissons de fond, des poissons de profondeur, des poissons qui...
Est-ce que c'est...
Oui, peu profonde.
On a de la difficulté à vous entendre, Mme,
okay.
Mme Dulude.
Oui,
je sais pas si. Je pense que c'est le fil qui est comme un petit peu. Bon, c'est un petit peu, il n'y a pas de fil. On va essayer de voir ce que ça donne. Il y a peut-être mal branché. Pourtant, on devrait bien vous entendre. Lise donc, hein? Bon, vous allez partager, donc on va s'organiser pour partager le microphone avec monsieur. Oui, s'il vous plaît.
Donc,
parce que ça ne semble pas être régulier. Je ne comprends pas ce qui se passe.
À toi, Anne-Marie.
Alors, donc, est-ce que c'est véritable, cette pensée-là, de que ce sont des poissons de fond, non? Des poissons vidangeurs jusqu'à un certain point?
Ben, s'ils mangent des herbiers aquatiques, là, ouais. Il faut quand même qu'on les voit, ces poissons-là, c'est sûr qu'on va les voir. Là. Puis aussi, ils ont une caractéristique assez spéciale. Là, si vous regardez sur YouTube, là, on les voit sauter.
Ben oui, c'est spectaculaire.
Ouais. Ouais. À cause de la vibration des moteurs. Puis là, il va peut-être falloir... Mais là, on n'est pas rendu là, mais on va se promener avec des casques de moto en chaloupe. Mais il y a certains étoiles, là, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça se passe dans des petits cours d'eau, vous remarquerez ça aussi. Là.
Et est-ce que le danger est réel? Ouais. Cette prolifération, est-ce qu'elle nous menace véritablement? On parle d'un individu, à quel point ça peut devenir, à court ou moyen terme, une problématique importante?
Bien, c'est sûr que... on va l'avoir à la carte, là, on va rentrer, puis on va l'observer, là, puis tout ça, mais il faut faire un suivi là, de l'étendue de la population, puis tout ça, puis quelle niche elle va utiliser, puis tout ça. Moi, je dis qu'on est au début, on ne peut pas dire que ça va être
dramatique.
Mais avez-vous un lot des craintes véritables là-dessus?
Moi, je dirais que le lac Saint-Pierre est déjà fragilisé par la perte de certains habitants. Ouais. On connaît les problèmes qu'on a avec la perche chaude. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que le lac Saint-Pierre est fragilisé, l'utilisation du territoire. Et il faut agir à plusieurs niveaux en même temps. Pas juste sur... C'est sûr que les espèces exotiques envahissantes, c'en est un problème, puis celle-là a l'air particulièrement envahissante. Mais il faut agir sur la qualité des habitats, il faut agir à tous les niveaux, donc il faut mettre plus d'argent dans les suivis.
Oui, le défi est grand. Alors, vous voyez quoi comme façon d'intervenir, tant pour la situation actuelle que pour la possibilité de voir un poisson comme la carpe de roseau là, commencer à nicher puis à faire du dégât? Là, on sait le dégât que ça peut apporter. Comment, comme intervenant ou comme observateur, vous pensez qu'on peut dès maintenant agir?
Bien, dans un premier temps, il faut... faut suivre le niveau de la population, là. Voir si c'est un individu une fois de temps en temps ou on en voit tout le temps. C'est un peu comme le gobi quand il est arrivé, là, tu allais à la pêche, puis qu'est-ce que tu pognais? C'était seulement du gobi. Puis c'est une façon de le suivre. Puis quand le gobi est arrivé, c'était la panique aussi, là.
OK.
Puis on en parlait, on disait, bon, une espèce asiatique qui est rentrée par les ballasts de bateaux, puis... Finalement, le gobi a pris sa place dans la chaîne alimentaire. Oui. Dernièrement, il y a la tanche aussi là, qui est rentrée. Là. Il y a des poissons qui rentrent. Là. La tanche, le crapet vert dans la rivière Saint-François, il y en a...
Il y a plusieurs espèces. Dans le lac Saint-Pierre, mais aussi dans tout le Saint-Laurent, plus les Grands Lacs. La navigation commerciale, c'est sûr qu'elle en a emporté beaucoup.
Oui.
Quand on parle du gobi à taches noires, il est mangé maintenant par les dorés.
Doré noir,
puis lui-même va manger de la moule zébrée qui était une espèce envahissante aussi. Ouais. Donc, au début, ça perturbe beaucoup, beaucoup. Selon l'espèce, ils n'envahissent pas toutes de la même façon. Ça dépend, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Là. Après ça, comme disait Paul, ça se rétablit comme équilibre.
Donc, il n'y a pas lieu de craindre l'envahissement de la carpe de roseau dans nos eaux. Parce que quand on regarde les échantillons qui ont été faits, il y en a 16 qui ont été positifs sur 110. On voit sur la carte, il y a des points rouges, là, et c'est majoritairement dans notre coin où on retrouve des traces d'ADN. Il y a 7 points, là, dont 2 à l'entrée du lac Saint-Pierre. Et on se dit, ce poisson-là, s'il a laissé des traces ici, c'est qu'il doit aimer notre... nos eaux, et peut-être qu'on est plus susceptible que d'autres endroits du fleuve à recevoir la visite de ce poisson-là, qui, même si on nuance un petit peu ce qui peut se passer, reste que c'est un poisson qui peut faire beaucoup de dommages.
Ben moi, je dirais que il faut être prudent avec ça. Puis, je ne sais pas si l'être humain va être capable de contrôler une espèce qui rentre comme ça, parce que dans la littérature, on le voit, là, tu sais que Je reviens encore sur mon fameux gobi, puis notre tanche, tu sais, on n'est pas capable de contrôler ça. C'est plus la nature qui va contrôler ça. Il va être plus les prédateurs naturels. Si on regarde au niveau du lac Saint-Pierre, si on regarde une espèce là, d'oiseau là, qui a vraiment proliféré, là, c'est le pigargue à tête blanche.
Oui, dont on parlait tantôt.
Oui, c'est ça. Puis si on regarde... Il y a plusieurs années aussi, il y a eu la carpe allemande qui a fait son apparition, puis qui est maintenant abondante, puis qui est rentrée dans la niche écologique. Là. Mais moi, je dis qu'il faut être préoccupé par ça, puis se demander, la porte d'entrée est où, puis c'est là que ça va jouer.
Oui, bien c'est ça, vous avez parlé tantôt des ballasts, des gros navires. Est-ce que c'est la principale source d'entrée de ce genre de poissons-là?
Pas pour la carpe asiatique. Non. Ça vient plus des grands lacs puis les canaux qu'on a faits pour rejoindre les États-Unis, parce que ça arrive des États-Unis.
Ouais. La moule zébrée, d'autres espèces sont rentrées comme ça.
Les ballasts de bateaux.
OK. Et... La fameuse intention de empêcher les pêcheurs d'utiliser les ménés, les poissons, les appâts vivants. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec la lutte vers ce poisson-là?
En fait, c'est l'exportation. C'est plus l'exportation de poissons à peau. Si on pêche au lac Saint-Pierre et on prend des poissons à peau qui viennent du lac Saint-Pierre, t'as moins de chances d'avoir la fameuse carpe. Puis, moi, je vous dirais que ça, c'est un autre dossier. Là. Oui. Parce que il ne faut pas associer toutes les choses ensemble. Là.
C'est ce que le gouvernement semble décider à faire. Là. Il parle du dossier de la carpe et introduit cette réglementation, là, veut introduire cette réglementation empêchant les pêcheurs d'utiliser les ménés.
À mon avis, c'est le manque d'agents de la faune. Là. Ça prendrait plus d'agents de la faune pour contrôler, mettre en application les règlements déjà en vigueur, parce que l'exportation des menées, là, c'est interdit dans certains plans d'eau. Là. Puis il faudrait peut-être mettre ça plus en force que de dire, on ne pêche plus avec des poissons à peau. Malgré qu'il y a une question de maladie, il y a une question d'espèces envahissantes comme la carpe asiatique, mais à quel point les pêcheurs de menées qui vendent du poisson à pas le retrouvent dans leur filet et puis sont tenus à trier aussi le poisson. Là. Tu peux pas garder de la perche chaude, de la chigan, du brochet. Quand il y a une espèce envahissante, ils disent la relâcher.
C'est ça qui est étrange.
Mais ça, je pense que j'avais un bon monsieur.
Oui, on va en parler tantôt avec David Joly. Ouais. Mais merci beaucoup de vos précisions. Il y avait aussi l'aspect qui touchait l'entretien des bateaux. Là, on suggérait qu'il fallait faire un entretien plus pointu des coques de bateaux à cause de ça. Ça se tient plus comme mesure préventive?
C'est plus pour les moules et les plantes envahissantes, parce que ça se colle sur les bateaux.
Pour la carpe?
Pour la carpe, c'est plus le mené. Il faut surveiller.
Faut surveiller, c'est le
mot d'ordre. Plus d'argent de suivi, c'est
ça. Pas précipiter les choses comme on semble le faire là non plus, j'imagine. Prendre le temps d'étudier plus la situation.
Moi, je trouve que c'est la solution facile.
D'accord.
En tout cas, on va peut-être me faire taper ses doigts, mais c'est mon opinion.
Ouais, mais de ce temps-là, on voit beaucoup de décisions prises rapidement qui demandent à être réfléchies après. Là.
C'est sûr que la lumière rouge est allumée.
On vous invite à marcher pour ça, d'ailleurs, bientôt. Merci beaucoup, M. Messier. Ouais, merci, Mme Dulude. On fait une pause. De l'autre côté, on reçoit M. David Joly, qui est de Méné.Québec, qui a son mot à dire dans le dossier également.